J'ai aimé passer ce moment avec vous, donc j'espère qu'il en est de même. Dormez bien, faites de beaux rêves, respirez, la vie peut être belle. Dormez bien et à demain. Salut.
Merci Olivier, rentrez bien, je vous souhaite une bonne nuit. Vous écoutez Europe 1, il est 1h. Et la nuit se poursuit avec à présent Christophe Ondelat avec aujourd'hui une histoire douloureuse, l'enquête sur l'assassinat de Maëva Rousseau en avril 2012 dans le Val d'Oise. On va la retrouver morte près de son bébé vivant, douloureuse aussi quant aux raisons pour lesquelles on l'a tuée. Voici donc Ondelat raconte.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première scène de cette histoire est absolument déchirante, terrible, effroyable. On est en avril 2012 dans un petit village du Val d'Oise, à Chérance. Un père de famille, Alan, 25 ans, rentre chez lui. Il est cuisinier, il a travaillé toute la journée, il est 3h du matin et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se coucher près de sa compagne Maëva et de son petit bébé Lorenzo. Alors il gare sa voiture juste devant chez eux. Il sort de sa voiture, et là, à l'étage, il entend son petit bébé qui pleure. Et comment dire, il sent que ses pleurs ne sont pas normaux, qu'il s'est passé quelque chose. Alors il se précipite dans l'escalier qui mène à l'étage, et ce qu'il voit quand il arrive là-haut, il ne pourra jamais l'oublier. Lorenzo est là sur le sol, il est coincé sous sa maman, dans une mare de sang. Maëva ! Maëva ! Il se précipite vers elle, il libère le bras du petit Lorenzo, et dans une démarche totalement désespérée, il essaye de lui faire du bouche à bouche. Ça ne sert à rien, Alan. Ça ne sert à rien. Elle est morte. Alan attrape son téléphone, il appelle le SAMU. Oui, à Chérance. Venez vite ! Vite ? Mais pourquoi, Alan ? Elle est morte. Le décès est constaté par le SAMU à 3h30 du matin. Mais qui ? Qui a pu faire une chose pareille ? Tuer Maëva sous les yeux de son bébé. Les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place le lendemain aux aurores. Tu remarqueras que la porte d'entrée n'a pas été forcée. C'est peut-être le signe qu'elle connaissait son meurtrier. En tout cas, elle lui a ouvert. Et dans la pièce à l'étage, ils prennent des photos sous tous les angles. Les murs, tachés de projections de sang. Et puis le lit du petit Lorenzo, totalement fracassé. Tiens, regarde. Sur un pied de lit, il y a des cheveux collés. Du coup, je me dis que c'est peut-être l'arme du crime, non ? Ok, vous prenez des empreintes. ADN, digital, tout ce que vous trouverez, hein, et qui pourra nous donner l'identité du tueur. Je vous le dis tout de suite, ils ne trouveront rien, aucune trace. Monsieur ? Monsieur, vous êtes le compagnon, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il vous semble, monsieur, qu'il manque quelque chose ? Qu'on vous a volé quelque chose ? Mais il manque son sac à main. Non, il y a tous ces papiers. Et autre chose ? Non. À première vue, rien d'autre. Un tel déchaînement de violence pour un cambriolage, ça paraît peu probable. Sur le corps de Maëva Rousseau, puisque c'est son nom, le médecin légiste compte une quinzaine de coups. Ils ont été portés par un objet pesant et contondant. Des coups très violents. La boîte crânienne est brisée en plusieurs endroits. Et des côtes aussi. Et vous voyez là, les blessures violacées sur son avant-bras. Et puis ses doigts retournés. Ça indique qu'elle s'est protégée. Et même qu'elle a protégé son fils, hein, sous la pluie de coups qu'elle a dû recevoir. Le bébé, ça je ne vous l'ai pas encore dit, n'a rien. Pas une égratignure. Il n'a plus de maman, elle a été tuée dans des conditions effroyables, il a tout vu, mais physiquement ça va. La suite de l'enquête, eh bien, c'est du classique. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, vous devriez savoir. Reconstituer l'emploi du temps de la victime. Les parents de Maëva sont les derniers à l'avoir vue vivante. Elle est venue dîner à la maison avec Lorenzo. Et ils sont partis vers 10h moins le quart, oui. 10h moins le quart. Et ce qui s'est passé après, c'est son téléphone portable qui le raconte. À 22h04, Maëva envoie un SMS à Alan pour lui dire qu'elle est bien rentrée. 13 minutes plus tard, à 22h17, Alan lui répond qu'il pense rentrer vers 1h du matin. Maëva lui répond tout de suite et elle lui dit qu'elle a pris un bain et qu'elle se sent grosse. À 1h moins 5, Alan envoie un dernier SMS pour dire que finalement il a beaucoup de travail, il ne rentrera pas avant 3h du matin. Et ce dernier SMS, Maëva ne l'a pas ouvert. Il y a encore le petit point bleu à côté du message sur son portable. Et si elle n'a pas répondu, eh bien c'est sans doute parce qu'elle était morte. Et donc elle a été tuée entre son dernier SMS, « J'ai pris un bain et je me sens grosse » à 23h18, et ce SMS qu'elle n'ouvre pas à 1h moins 5 du matin. Deux jours plus tard, quelqu'un se présente au commissariat. On a trouvé ce sac à main. Il flottait dans les eaux de la rivière avec Saint-Surepte, tout près du restaurant. Bah, je suppose que quelqu'un l'a perdu. Quel restaurant ? Le Moulin des Fourges. Vous connaissez ? Ah oui, très bien. Merci, monsieur. Tiens. Le Moulin des Fourges. C'est le restaurant où Alan, le compagnon de Maëva, est cuisinier. En attendant, dans ce sac, il y a tout. Ses papiers, sa carte bancaire et même de l'argent liquide. Confirmation qu'on n'a pas tué Maëva pour la voler. Mais pour autre chose. Donc le sac de Maëva flottait dans la rivière, tout près du restaurant où travaille Alan. Ça pue, ça. Et si c'était lui? Je vous ai tellement raconté d'histoires dans lesquelles papa tue maman. D'autant que cet Alan ne pose un enfant de cœur. Hein. Et ça, les gendarmes le savent. Hein. Ils l'ont déjà coincé dans une affaire de trafic de chichons. Et quand je dis chichon, je ne parle pas du pâté, comme dans le Sud-Ouest. Je parle du hashish. Alan vend un peu de shit en marge de son métier de cuistot. De là, tuer sa femme, c'est autre chose. Mais le voilà à la gendarmerie. Vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour l'après-midi et la nuit du 8 avril, monsieur ? Ben, je travaillais au restaurant. Vous avez commencé à quelle heure ? J'ai commencé vers 17h et je suis rentré un peu avant 3h du matin. On avait un gros mariage. Vous pouvez vérifier, hein. Il y a des caméras de surveillance au resto. On vérifiera. Et si on parlait un peu de vos petits trafics de cannabis? Je reconnais, j'en vends un peu. Et d'ailleurs, Maëva, elle aimait pas trop ça, hein. On se prenait la tête souvent avec ça, hein. Une dispute qui aurait dégénéré? Eh bien non, car on le voit parfaitement bien sur les images du système de surveillance vidéo du restaurant. Il n'a pas menti. Il était au resto jusqu'à 3h. Ça n'est pas lui qui a tué Maëva. À part ça, Chérance, c'est pas un gros village, hein. 160 habitants. Et donc forcément, des gens ont vu quelque chose. Moi, je rentrais d'un dîner, à pied. Il devait être minuit et demi. Et en passant devant chez eux, j'ai vu une camionnette blanche arrêtée. Et il y avait un type au volant. Et ce qui m'a surpris, c'est que il portait des gants, vous savez, des gants de vaisselle roses. Et il a vu que je le regardais, et donc il a tourné la tête pour pas que je le reconnaisse. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je retienne le numéro de sa plaque minéralogique. Et vous vous en souvenez? Pas complètement, hein. Je dirais qu'il y avait E, R, W dedans. Ou E, X, W. En tout cas, il y avait un W. Il n'a pas une mémoire d'éléphant, papa. Il dit aussi que le type avait la soixantaine. Heureusement, il n'est pas le seul à avoir vu quelque chose. Un couple de voisins, lui aussi, a aperçu la fourgonnette blanche. Elle roulait au pas. Et les phares éteints. Mais celui qui était dedans, on l'a bien reconnu. Ah bon? Et c'est qui? Alain Berruet, qui s'appelle. Il est à la fois électricien et maçon à Bréhélu. Alors ça, c'est du lourd. Et les gendarmes vérifient, cet Alain Berruet a bien une camionnette blanche. Et il y a bien un W dans son immatriculation. Vous vous doutez qu'Alain Berruet est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 7 avril au soir, monsieur Berruet?
Le 7 avril? Oh, j'étais chez moi. J'ai fait du carrelage toute la journée.
Et le soir?
Ah ben, le soir, je suis allé chez des amis où mon fils il a passé la journée. Puis je suis resté là-bas pour dîner. J'ai dû rentrer vers 11h, 11h30.
Et puis?
Bah, après, je suis allé me coucher.
C'est tout?
Bah oui, c'est tout.
Le lendemain, les gendarmes fouillent le domicile des Berruet. Un meurtre comme celui de Maëva, vu la sauvagerie, ça a dû laisser du sang sur des vêtements. Les vêtements de celui qui l'a tué. Alors ils saisissent tous les vêtements, ils les font analyser. Pas la moindre tache de sang. Mais chez les Berruet, les gendarmes ont vu autre chose. Autre chose que du sang. Ils ont vu le malheur. On ne peut rien dire d'autre. Le malheur. Une sorte de mausolée dans une pièce au volet fermé avec des photos et des bougies. Un mausolée dédié à leur fils de 24 ans, Rodolphe, qui s'est tué dans un accident de voiture il y a 8 mois. Une sortie de route après un virage. Il avait 1 gramme d'alcool dans le sang. On a retrouvé son corps 20 mètres plus loin dans un champ, éjecté. Et les gendarmes connaissent bien cette histoire parce que depuis, le père Berruet a perdu la tête. Il n'accepte pas les conclusions du rapport de gendarmerie.
Comment ça qu'il a été éjecté? Les portes de la voiture étaient fermées. Et le pare-brise et les vitres intactes. Il n'a pas été éjecté, mon fils. Il y a autre chose. Et puis vous avez vu la blessure qu'il a sur l'épaule? Sur l'épaule droite. C'est la marque d'une ceinture de sécurité. Et s'il l'avait sur l'épaule droite, c'est qu'il était sur le siège passager. Sinon, il l'aurait eu sur l'épaule gauche. C'est pas lui qui conduisait. Vous entendez? C'est pas lui qui conduisait. Faut faire une enquête.
Et tout ça, ça l'a rendu fou. Un jour, les gendarmes ont dû intervenir au cimetière pour neutraliser Alain Berruet. Il était en train de déceler la tombe de son fils.
Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Berruet? Vous voyez pas? Je creuse. Ma femme, elle a entendu un grattement sous le marbre.
Terrible scène. Bouleversante, on a envie de chialer avec eux. Et cet homme-là, 8 mois plus tard, a été vu en pleine nuit, garé devant chez Maëva Rousseau et son copain Alan, avec des gants de vaisselle roses. 1 heure avant qu'Alan ne trouve Maëva morte, auprès de son bébé. Est-ce que ces deux histoires sont liées? Pour l'instant, on ne voit pas trop comment. C'est la mère de Maëva qui va aider les gendarmes à faire le lien en leur racontant un incident qui a eu lieu 6 mois plus tôt, en octobre.
Ça s'est passé devant la supérette de Bréhélu. Alain et Maëva, ils venaient de faire leurs courses. Ils avaient le bébé dans les bras. Et là, ils ont vu les Berruet débouler comme des fous.
Et elle, Daberoué, elle a pris Maïva par le col et elle l'a secouée en lui disant qu'elle allait la tuer. De ses propres mains qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur de la prison, qu'elle n'avait plus rien à perdre.
Ce qui voudrait dire qu'il pensait que votre fille et son compagnon étaient pour quelque chose dans la mort de leur fils.
Oui. Et depuis Maëva, elle avait peur de les croiser. Et avec Alan, ils sont allés porter plainte au commissariat.
Eh ben voilà.
On a le mobile du crime. Les Berruets pensent qu'Alan et Maëva sont responsables de la mort de leur fils. Et c'est pour ça que le père Berruet a tué Maëva. Ça se tient. Mais alors, qu'est-ce qui leur fait dire que Maëva et Alan sont responsables de la mort de leur fils? La mère de Maëva se met alors à raconter une histoire qui remonte à leur adolescence, à tous les trois. Maëva, Alan et Rodolphe, ils sont connus sur les bancs de l'école primaire. Et en grandissant, ils faisaient partie de la même bande. Ils se regroupaient le week-end et le mercredi sur la place de la mairie. Les scooters, les premières cigarettes et puis les premiers baisers. Et quand ils avaient 15 ans, Maëva, elle est sortie avec Rodolphe. Et Alan, lui, il est sorti avec une fille qui s'appelait Christelle. Et tout ça, ça a duré 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, c'était des gamins, hein. Ils ont, en quelque sorte, permuté les couples. C'est-à-dire que Maëva a quitté Rodolphe pour Alan et Rodolphe, il est allé avec Christelle. Mais Rodolphe, il n'arrivait pas à oublier ma fille, Maëva. Alors il a commencé à lui envoyer des SMS. Au début, Maëva, elle n'y a pas trop prêté attention. Mais quand elle est tombée enceinte, forcément, ça a commencé à l'agacer. Et Alan, il a dû mettre les points sur les i à Rodolphe. Mais Rodolphe, ça l'a pas arrêté. Et Alan, il a dû retourner le voir. Mais ça a rien changé. Et comme Rodolphe, il était toujours avec Christelle, et ben un jour, Alan, il a montré à Christelle les SMS que Rodolphe envoyait à Maëva. Et du coup, ben, elle a plaqué Rodolphe dans la journée. Et Rodolphe, il était au fond du trou. Alors ce soir-là, il a vidé une bouteille de whisky. Il a pris sa voiture pour aller régler leur compte avec Alan et Maëva. Et il a loupé un virage à plus de 100 km/h. Et il s'est tué. Et c'est pour ça que les parents Berruet, les parents de Rodolphe considéraient Maëva et Alan comme responsables de la mort de leur fils. Oui, c'est pour ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que de malheur, que de rancœur, que de souffrance dans cette histoire. Des gamins qui se connaissent depuis l'enfance, des parents qui sont amis, en plus. Et tout ça dans un tout petit village. Ce scénario tient. Mais je vous rappelle qu'Alain Berruet dit qu'à l'heure du crime, il était chez lui et que sa femme a confirmé. Et donc, pour l'instant, on n'a aucune preuve contre lui. Aucune. Le juge d'instruction décide de placer le couple Berruet sur écoute. Et les gendarmes captent une conversation entre Madame Berruet et l'une de ses amies.
J'ai l'impression qu'Alain, il se rend compte que je le soupçonne. En même temps, le lendemain de la nouvelle, j'ai vu le sac de Maëva sur la table de la cuisine. C'est normal que je me doute de quelque chose.
Deux mois et demi après le meurtre de Maëva Rousseau, les Berruet, mari et femme, sont placés en garde à vue. Enda Berruet, la mère, a dit au téléphone qu'elle avait vu le sac de Maëva dans sa cuisine, après le crime. Est-ce qu'elle confirme ?
Le sac ? Ben oui, alors j'ai vu un sac. C'est interdit ?
Les gendarmes lui présentent alors des photos d'une dizaine de sacs à main différents.
Est-ce que parmi ces sacs, vous reconnaissez le sac que vous avez vu sur la table de votre cuisine, madame ?
Oui.
Oui, il ressemble à celui-là.
Et ce sac est celui de Maëva Rousseau. Et lui, maintenant, Alain Berruet, voyons ce qu'il a dans le ventre.
Monsieur Berruet,
des témoins vous ont vu à Chérance, près du domicile de Maëva Rousseau, à l'heure présumée du meurtre. Ils disent que vous portiez des gants roses aux mains.
Mais c'est impossible. Je vous ai dit que j'étais chez moi en train de dormir. Ma femme était moi, elle vous l'a dit.
Votre femme, justement. Elle nous a surtout dit que vous aviez ramené chez vous le sac à main de Maëva Rousseau. Alors peut-être que c'est plus la peine de nier, monsieur Berruet.
Et là, d'un coup, il devient blême.
Votre femme vous a trahi, monsieur Berruet. Et je vous conseille de nous dire la vérité maintenant. Sinon, on y passera la nuit s'il faut, et la journée de demain, et toute la semaine même.
Alors, j'ai pété les plombs, voilà.
C'est vous qui avez tué Maëva Rousseau?
Oui, c'est moi.
Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé?
Je vous ai dit, j'avais dîné chez mes amis. Je suis parti vers 11h30. J'avais pas mal bu. En rentrant, je suis passé devant le cimetière. Ça m'a fait penser à Rodolphe, à l'accident, à tout ça. Et là, j'ai attrapé la rage. Il fallait que je fasse un truc, alors... Je suis rentré chez moi, j'ai enfilé des gants papa, j'ai mis des bottes et... Je suis allé chez Alain et Maëva. J'avais une batte de baseball, mais... C'était pour m'expliquer. Je suis rentré, c'était pas fermé. Je suis monté à l'étage. Elle était là, avec le petit dans le lit. Elle s'est levée, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et je l'ai frappé à la tête, avec la batte de baseball. C'est comme si c'était pas moi. Et j'ai frappé encore, encore, encore.
Et après ?
Après, j'ai pris son sac et je suis rentré chez moi.
Vous en avez fait quoi, du sac à main ?
Ma femme, elle l'a vu. Elle m'a demandé de le ramener. Alors j'ai pris la voiture et... Je suis allé jusqu'au moulin des Fourges. Pour le balancer... Dans l'Epte, avec les bottes et les gants. Voilà.
Alain Berruet est mis en examen pour assassinat et sa femme pour complicité de destruction de preuves. Assassinat, ça reste à prouver. Lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il a agi sous le coup d'une impulsion. Il a peut-être prémédité le meurtre de Maëva. Mais pour l'instant, ça n'est pas sûr. Un an et demi après le crime, le juge organise une reconstitution dans la petite maison de Chérance. On a mis un mannequin sur le lit. Et Alain Berruet a enfilé des bottes et des gants mappa roses. Et on lui donne une batte de baseball.
Bien. Allez-y, monsieur, vous refaites les gestes que vous avez faits ce jour-là. Allez-y.
Et là, Alain Berruet lève sa batte et il la bat à 3 reprises. Un peu mollement sur le mannequin. Sauf que le légiste a relevé 15 coups.
C'est tout, monsieur Berruet ?
Ben oui, oui. Là, là, elle est morte.
Depuis ses aveux, Alain Berruet a légèrement modifié sa version. Il dit que cette nuit-là, il est venu chez Alan et Maëva pour discuter. Discuter. Avec des gants MAPA et une batte de baseball. Difficile à croire.
À un moment, Maëva, elle a dit « Rodolphe, il est bien où il est. » Ça m'a rendu fou. Je n'ai pas supporté, quoi. Et je me suis mis à la frapper, ça. Sans pouvoir me contrôler.
Je comprends pas, monsieur. Le bébé de Rousseau Maëva avait le bras coincé sous le corps de sa mère. Or, il n'a reçu aucun coup. C'est bien la preuve que vous vous êtes contrôlé, ça.
Le bébé, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, je n'ai pas fait attention à lui.
Pour votre information et dans la perspective du procès qui arrive, vous devez savoir que le couple Berruet, avant le crime, était au bord du divorce. En tout cas, il faisait chambre à part. Mais il y a une hypothèse selon laquelle c'est elle, Enda Berruet, qui a remonté son mari comme une pendule, en lui disant « tu dois agir, fais quelque chose, bouge-toi le cul ». C'est l'un des enjeux du procès qui arrive. Sa place à elle dans le crime. Le procès du couple Berruet s'ouvre le 15 juin 2015 devant la cour d'assises du Val-d'Oise à Pontoise. Imaginez le face-à-face entre les deux familles. Ils étaient amis avant. Et évidemment, Alain Berruet et son avocat plaident que le début de cette histoire, c'est l'accident de voiture qui a emporté Rodolphe. Et que c'est ça qui explique tout. Monsieur et Madame Berruet avaient toutes les raisons de douter des conclusions de l'enquête de gendarmerie. Enfin, le corps de leur fils gisait à 20 mètres de sa voiture, laquelle avait été retrouvée portière fermée et vitre intacte. Vous me concéderez que c'est troublant. Eh bien, les gendarmes ont conclu que Rodolphe avait été éjecté. Mais éjecté comment ? Ils se sont battus à l'époque pour qu'il y ait une enquête, pour qu'on réponde à leurs questions, parce que le rapport des gendarmes ne tenait pas debout. On leur a accordé une expertise. Un expert accidentologue a été nommé. Mais il a mis des mois à rendre son rapport. Et entre-temps, mon client, à bout, détruit, a tué Maëva Rousseau. Et ce rapport, depuis, on en a les conclusions. Il dit que Rodolphe est sorti lui-même de sa voiture. Mais ça, mes clients auraient pu l'entendre. Si on le leur avait dit avant. Mais on le leur a dit trop tard. Trop tard pour Maëva. Pendant le procès, à aucun moment, Alain Berruet ne met sa femme Enda en cause. Il assume tout. Et le concernant, il maintient qu'il n'avait rien prémédité.
Je voulais juste m'expliquer avec eux. J'avais pris la batte de baseball, c'est vrai. Mais c'était au cas où Alan serait là, au cas où il serait armé.
D'accord, monsieur. Mais les gants,
dont on peut imaginer que vous les avez mis pour ne pas laisser de traces ADN, notamment.
Ben, les gants, je suis allé au cimetière pour empoter des fleurs sur la tombe de mon fils. J'ai oublié de les enlever, c'est tout.
Et les bottes, monsieur ?
Ben, il pleuvait ce jour-là.
Ah non, monsieur, non. Il ne pleuvait pas.
Ah bon ?
À la fin, L'avocat général est très sévère. Les conditions tragiques de l'accident du jeune Rodolphe, qui nous bouleversent, bien sûr, ne doivent pas masquer l'assassinat de Maëva Rousseau. Je demande pour M. Alain Berruet une peine de 30 années de réclusion criminelle. Quand il a le dernier mot, à la fin, Alain Berruet, qui arbore la croix du Christ autour du cou, s'adresse au père de Maëva, qui fut son ami.
Pardon. Pardon. J'ai tout foutu en l'air.
Et après 5 heures de délibéré, Alain Berruet est condamné à 20 années de réclusion criminelle. Les jurés ont tenu compte de son incommensurable douleur de papa. Quant à Enda Berruet, elle écope de 2 ans avec sursis. Aucun des deux ne fait appel. Maître Cathy Richard, vous étiez dans ce dossier avocate de la partie civile, vous avez défendu les intérêts du petit Lorenzo, le petit bébé, les intérêts de son père, Alan, et du père d'Alan. Est-ce que ce verdict de 20 ans pour assassinat, il a encouru perpétuité, traduit en quelque sorte la prise en compte par le jury du malheur qu'Alain Berruet a vécu lui aussi?
Du point de vue de mon client, on est au-delà de ça. En réalité, il faut savoir que Alan est un garçon qui a choisi de pardonner et de regarder devant pour son fils. Il a choisi la paix plutôt que la guerre. Il a choisi de ne pas être gagné, rongé, lui, par cette colère qui avait détruit, finalement, les Berruet et détruit Maëva. En réalité, Alan, il a choisi l'antithèse Berruet. On lui a tué sa femme, on a tué la maman de son petit garçon, et lui, il a choisi justement de ne pas haïr. Contrairement aux Berruet qui avaient choisi, eux, de haïr pour une histoire d'ado.
Donc les 20 ans lui vont.
En réalité, vous savez, on ne demande pas aux parties civiles si ça leur va ou pas.
Oui, mais vous savez, la prison, vous avez cette conversation, Cathy Richard, avec eux avant.
J'ai toujours une conversation avec les clients pour leur dire que la peine n'efface pas la peine, en ce sens que la sanction n'efface pas la souffrance. Et que c'est pas de ça qu'il faut attendre d'aller mieux. C'est pas d'attendre d'un verdict qui n'est pas en relation avec leur souffrance, mais qui est en relation avec la commission des faits, la personnalité de l'auteur, les circonstances des faits, mais pas avec leur souffrance. Et donc, c'est un travail que je fais systématiquement avec les parties civiles avant l'audience, et qui a été d'autant plus facile à faire avec Alan qu'il n'était pas dans cet état d'esprit.
Néanmoins, est-ce qu'il y a une forme de circonstance atténuante dans ses 20 ans, alors qu'il encourait perpète? À votre
avis, je
pense
que c'est incontestablement un couple qui s'est, dans leur souffrance, monté la tête et ont choisi d'avoir des boucs émissaires. Et leur bouc émissaire, c'était Alan et Maëva. Quand Alan et Maëva sont violemment pris à partie, ils vont déposer plainte. Et alors, c'est extraordinaire cette plainte, parce que ça nous permet de lire dans la procédure, d'entendre la voix de Maëva, en fait, d'entendre la voix de la victime qui est morte dans notre procédure, et de l'entendre parler avant de celui qui va la tuer. Et Maëva raconte toute l'histoire, justement. Elle explique la genèse de cette histoire. Elle explique que c'est elle qui a demandé à Alan d'aller montrer les textos de Rodolphe à Christelle. Elle dit, moi j'en avais assez, j'étais entre les deux, je pouvais plus supporter ce harcèlement de la part de Rodolphe, et j'ai demandé à Alan d'aller les montrer à Christelle. Donc elle explique tout ça, elle. C'est sa voix, elle, qui explique ça. Mais surtout, ils expliquent tous les deux ce jour-là qu'ils sont terrorisés par les Berruet. Ce qui explique aussi que lorsque Alain Berruet nous dit qu'il venait juste discuter ce soir-là, il faut d'abord savoir premièrement que la voiture du couple et la voiture conduite par Alan n'étaient pas garées devant la maison, et ça, il était obligé de s'en rendre compte que la voiture d'Alan n'était pas là.
Et que donc Alan n'était pas là.
Que quand il va déposer ce sac à main qu'il a d'abord rapporté comme un trophée à sa femme, quand il va le déposer au moulin de fourge, là où il pensait d'ailleurs que Alan travaillait ce soir-là, c'est pour accuser Alan. En fait, tout est une opération de vengeance. Tuer Maëva et faire accuser Alan. C'est terrible. C'est terrible.
Alors finalement, il est condamné, Alain Barruet, pour assassinat. Les jurés ont donc retenu la préméditation. Vous êtes d'accord avec ça? Il prend la batte de baseball pour tuer.
Oui, il prend pas seulement la batte de baseball pour tuer, il prend les gants MAPA en caoutchouc pour tuer, il met ses bottes en caoutchouc pour tuer, il rentre dans ce logement à pas feutrer, parce qu'en réalité, effectivement, la porte était ouverte, pas parce qu'elle lui avait ouverte, mais parce qu'on est dans un petit village et qu'elle savait que son chéri allait rentrer plus tard dans la soirée et qu'elle se méfiait pas pour le coup. Et à pas feutrer, il monte dans la chambre dans laquelle est Maëva et son bébé. Elle est faite à ce moment-là, mais elle est faite comme un rat au fond d'un trou, parce que c'est l'escalier, c'est un escalier de meunier très accentué, voilà. Et quand il arrive en haut, elle n'a pas d'endroit où se réfugier. La seule chose que Maëva va faire, c'est protéger son fils au maximum de son corps. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des marques de la batte de baseball vont être dans son dos, parce qu'elle a tourné le dos, elle a essayé de protéger son petit garçon. Elle a d'ailleurs coincé ce petit garçon avec son corps, ce qui a empêché que ensuite Lorenzo tombe dans l'escalier, ce qu'il aurait pu faire en plus. Mais à ce moment-là, on a encore un Berouet qui vient dire « Oui, en fait, j'ai pété les plombs parce qu'elle m'a provoqué. » Elle a dit « Rodolphe, il est bien là où il est. » C'est impossible. C'est impossible. En réalité, c'est impossible. Il monte saisir en pleine nuit une jeune femme et son petit bébé dans leur maison sans s'annoncer. On imagine bien que si c'était annoncé, c'est elle qui serait descendue. Sans s'annoncer, avec une batte de baseball à la main, des gants en caoutchouc, et il ne lui laisse pas le temps ni la possibilité de s'enfuir. Lui va dire, c'est parce qu'elle m'a fait péter les plombs. Mais bien sûr qu'elle ne l'aurait pas fait péter les plombs. Bien sûr qu'à ce moment-là, elle était terrorisée, Maëva.
Qui voulait tuer, d'ailleurs? Est-ce qu'il voulait tuer Maëva ou Alain?
Non, il voulait tuer Maëva. Il savait qu'Alain n'était pas là ce soir-là. La voiture n'était pas là. Il savait qu'Alain travaillait souvent tard. Et en plus, on est le week-end. Il savait pertinemment qu'Alain n'était pas là ce soir-là. Il rentrait et il voulait tuer Maëva. Parce que c'est Maëva qui était l'ancienne amoureuse de Rodolphe. Parce que c'est Maëva dont Rodolphe était resté amoureux et à qui il continuait à envoyer des SMS. Parce que c'est Maëva qui avait dit à Alain d'en parler à Christelle. D'ailleurs, il n'a pas jamais pensé à tuer Christelle, parce que finalement c'est Christelle qui a mis Rodolphe dehors. Et puis son fils, tout le monde s'accorde à dire qu'il a bu une bouteille d'alcool fort d'un seul coup avant de prendre le volant et de partir comme une balle. Plusieurs sont témoins, disent qu'il roulait comme un fou quand il a eu une sortie de route. Non, ils sont pas dans cette idée-là. Ils sont dans leur idée que c'est de la faute de Maëva et Alain. Et Maëva doit mourir et Alain doit payer. Et toute l'idée, c'est de dire, je tue Maëva, je rapporte son sac à main comme un trophée à ma femme, et ensuite je vais mettre ce sac à main là où Alain aurait pu le jeter.
Ah, vous pensez qu'il choisit le restaurant et tout ça pour incriminer Alain?
Il choisit l'Epte là où il coule au moulin, ou là où il y a Alain. Il aurait pu le mettre ailleurs. J'ai démontré à l'audience qu'il y avait d'autres endroits pour pouvoir l'Epte passer à d'autres endroits et qu'il a dû faire un détour pour aller mettre ce sac à main à cet endroit-là. Donc, on se rend bien compte qu'en réalité, c'est un plan totalement machiavélique. On est dans une haine entretenue, dans un deuil pathologique qui donne lieu à cette idée de vengeance sans limite. Et d'ailleurs, moi, vous savez, il y a autre chose qui m'a fait mal au cœur, mais mal au cœur à cette audience. C'est que Rodolphe, il avait un petit frère. Et que ce petit frère, il était à cette audience, son papa dans le box, sa maman libre, mais qui comparaissait également, et que personne s'occupait de lui. Et ce petit frère, le midi, c'était avec les parties civiles qui déjeunaient. Parce que même lui était abandonné par ses parents au profit de leur idée uniquement, ils étaient obnubilés par le fils qu'ils avaient perdu, ce que je peux comprendre, mais on était dans une logique de destruction massive.
Alors il y a un point qui m'intrigue beaucoup, moi, dans cet accident de voiture qui est donc le déclencheur de tout. Il y a cette histoire de ceinture de sécurité. La démonstration est intéressante, il dit la marque de la ceinture est sur le côté droit de l'épaule, et donc il était passager, et donc il n'était pas conducteur. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, c'était Alain qui conduisait la voiture?
Mais j'en sais rien de ce qu'il dit. Il est dans des élucubrations. Ils sont dans des élucubrations totales qui sont aux opposés de tout ce qui a été découvert et des, après même les histoires de ceintures de sécurité. Enfin, on voit qu'ils sont, ils se montent la tête. Voilà, ils se montent la tête. Il y a des témoins qui voient Rodolphe monter dans cette voiture bourrée, qui voient Rodolphe conduire à toute vitesse. Plusieurs personnes disent, on savait qu'il allait au drame parce que il était pas en état de conduire et il conduisait comme un fou. Donc, moi, j'ai du mal avec ce que vous dites, Christophe, quand vous dites cet accident de voiture qui est à l'origine de tout. Enfin, oui, qui est à l'origine du délire
de
destructeur
folie.
De ses parents. Mais sinon, je veux dire, cet accident de voiture, il devrait être à l'origine de rien du tout. C'est un drame, c'est un accident de la circulation lié à un état alcoolique qui n'aurait jamais dû donner ensuite, avoir pour conséquence qu'on tue une très jeune femme sous les yeux de son bébé.
Mmh. Ce que je veux dire, Cathy Richard, c'est que, et je comprends que vous ne pouvez pas prendre cette posture, mais moi qui suis très extérieur à cette histoire, je suis évidemment effaré par ce qui est arrivé à Maëva, mais aussi un peu touché par ce qui est arrivé à ces gens-là, qui sont devenus fous, qui se sont engrainés eux-mêmes dans la folie, au point de vouloir la mort de Maëva. Ils sont malgré tout un peu touchants, même vous, ils vous touchent un peu ou pas du tout.
Moi, je suis touchée par des parents qui ont perdu leur enfant. J'ai du mal à être touchée par la haine aveugle. Vous voyez, Alan me touche. Alan me touche parce que Alan, il a une grandeur d'âme. Eux, ils sont uniquement dans la destruction sans jamais entendre rien ni personne. C'est-à-dire que ils ne veulent pas entendre les explications des gendarmes. Ils ne veulent pas lire ce qu'il y a dans la procédure. Quand ils agressent Alan et Maëva, ils sont dans une agression sans explication. C'est-à-dire que c'est pas, il y a rien qui puisse dire, ah bah oui, effectivement, Alan était au volant, ou ils ont tué leur fils. Enfin, rien. Rien. D'ailleurs, même eux, c'est pas forcément ce qu'ils verbalisent. En fait, ils verbalisent une espèce de magma à moitié paranoïaque en disant tout cela est trop louche. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les parties civiles. C'est-à-dire que quand quelque chose est inadmissible pour le cerveau, c'est-à-dire que on peut pas admettre. Souvent, on a ça aussi dans les suicides. On peut pas admettre. D'où la fameuse théorie du complot. C'est-à-dire que on peut pas admettre que quelqu'un qu'on aime meurt bêtement. Et encore moins à cause de lui. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends.
Donc on échafaude. Et parfois on a des parties civiles qui échafaudent des choses beaucoup plus compliquées. Mais oui, mais il l'a tué d'un coup de couteau. Mais en plus, il y avait ci, il y avait ça. Ben non, c'était juste une bagarre qui avait mal tourné. Oui, mais on imagine que, etc. Eux, ils étaient là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté la mort de leur fils. Et ils n'ont même, et ce qui était encore plus difficile d'accepter, que leur fils était à l'origine de sa propre mort. Il leur fallait trouver quelqu'un responsable. Et ils ont trouvé Maëva qui était à des années-lumière de tout ça.
De cette histoire. Une dernière chose, Cathy Richard. Enda Barruet est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Autrement dit, à rien. Elle n'a donc pas du tout participé au projet criminel.
En tout cas, on n'avait pas d'éléments pour le penser. Et puis je pense que le fait que... je vous dis, Rodolphe avait un petit frère, que ce petit frère était à l'audience, que son papa allait être condamné lourdement à 20 ans de réclusion criminelle. Je pense que ça a aussi encouragé les jurés à décider qu'au moins un des deux parents devait rester dehors pour que au drame, se rajoute pas encore un autre drame. Voilà. Et il fallait que le petit frère de Rodolphe garde sa maman.
Mmh. On se dit que le juge d'instruction aurait peut-être été bien inspiré de ne pas la renvoyer devant la cour d'assises, pour le coup.
Je pense que c'était bien qu'elle soit renvoyée devant la cour d'assises. Non, je pense que ça aurait été anormal qu'elle ne soit pas. D'ailleurs, elle a été déclarée coupable. La peine n'efface pas la peine, la sanction n'efface pas la souffrance, en ce sens que, effectivement, peu importe à combien elle est condamnée, en revanche, ce qui est important, c'est la déclaration de culpabilité.
Merci infiniment, Cathy Richard, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour débriefer cette affaire qui remonte à avril 2012.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Aujourd'hui, mardi et mercredi, vous découvrirez des histoires d'un célèbre médecin légiste belge qui s'appelle Philippe Boxo et qui raconte régulièrement dans des livres qui se vendent comme des petits pains quelques-unes des affaires sur lesquelles il a eu à travailler. Donc aujourd'hui, entre 14h et 15h, sur Europe 1, c'est On de la Traconte. Nos programmes de nuit continuent avec Pascal Praud et vous qui avez manqué peut-être l'émission de ce lundi. Nouvelle diffusion dans un instant, le temps d'écouter le jeune Cyril Riley. Il commence à s'imposer en France avec ce titre, la reprise électro de Stumbling In, le titre culte de 1978, interprété par Chris Norman et Suzy Quatro. Bonne nuit à l'écoute d'Europe 1. En train de faire danser la planète avec la reprise de ce titre Stumbling In. Cyril Riley, il est australien, né dans la campagne de la Nouvelle-Galles du Sud. Il est tombé dans la musique à l'âge de 2 ans et il joue plein d'instruments, la basse, le piano ou encore la batterie. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner cette nuit. Tout de suite, Pascal Praud et vous en nouvelle diffusion. L'émission qui vous donne la parole en direct entre 11h et 13h du lundi au vendredi. Et la séance de rattrapage, c'est maintenant. Écoutez, c'était ce lundi.
Quelle joie et quel plaisir de retrouver Géraldine.
Plaisir partagé, Pascal.
Qui était la semaine dernière
Bonjour.
À Morlaix.
Oui.
Et qui, je vois, est en pleine forme.
Tout à fait, bien reposée.
Revenue avec de l'énergie. L'énergie de la Bretagne.
C'est ça.
Parce que la Bretagne,
ah, mais c'est...
ça vous gagne.
Exactement. Tout à fait.
C'est ça qui est important. Merci aussi, parce qu'on a été très touchés ce matin par toutes ces friandises que vous nous avez rapportées de Morlaix. On en parlait avec notre ami Laurent Tessier. Bonjour cher Laurent.
Bonjour à tous.
L'élaboration de cette émission. On en parlait également avec notre ami
Olivier
Guénèque.
On parlait de quoi ce matin?
Des gâteaux, des crêpes,
attendez,
caramels,
arrête tout là, rapporté
de Morlaix.
Mais j'ai rien eu moi.
Ah,
parce qu'elles sont là, voilà,
sont là.
De la part de ma maman.
Eh oui, voilà.
Je me suis dit que j'avais été boycottée. De la part de ma maman et grâce à ma tante Liliane qui vous a écouté, qui a entendu que vous vouliez des friandises.
Regardez, on a des bonbons.
Oula, moi je
trouve ça. Regardez.
De la part de Colette.
Oui, parlez breton.
Touchez pas à ça.
Pourquoi?
Je le sens pas du tout.
Ah non, mais les palais bretons, c'est Colette. On l'a fait à Colette.
Ah bah allez-y, faites-vous plaisir.
Elle
est dans la voiture, là. Elle rentre de Bretagne aujourd'hui. Ils sont sur la route.
Ah, et vous êtes rentré quand?
Vendredi, en train. Parce qu'il n'y avait plus de place samedi.
Ah ouais, vous n'êtes pas rentré dans le chemin de fer. Alors, quand vous partez en vacances, vous rentrez deux jours avant, vous.
Non, j'ai plus de place le samedi.
C'est un concept.
Tout le monde part en Bretagne, il n'y a plus de place.
En fait, tu pars en vacances 8 jours et tu fais l'aller-retour.
Tu restes deux sur place.
Si tu veux. Tu vois, c'est comme... Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir.
Oui, moi aussi, plaisir
d'être
partagé.
Avec vous. Et puis, on salue Mickaël Poteau, qui était avec vous la semaine dernière.
Et Julien Blanc. À l'antenne.
Et Julien Blanc à l'antenne, bien sûr, le célèbre, qui eux sont partis à Morlaix également.
On s'est croisés.
Ils sont avec Colette. Qu'en fait, il y a une pension de famille à Morlaix. C'est les anciens d'Europe 1 qui peuvent aller à Morlaix, quelques jours de vacances. C'est un concept là-haut. Bon, Kenji Girac. Alors, on va en parler avec Jean-Baptiste Marty, et qui en parlait à l'instant, qui est journaliste service police-justice d'Europe 1. Bon, d'abord, c'est vrai que nous sommes rassurés, bien évidemment, parce que il a 27 ans, il a gagné la Starax, The Voice, Voice numéro 3, je crois, quand il avait 18.
La saison, je l'ignore, mais The Voice...
Je crois que c'est la saison 3 qu'il avait gagné. C'est quelqu'un de très sympathique, on a entendu
très populaire
auprès des jeunes. Exactement, donc on est plutôt content, évidemment, qu'il ne soit pas arrivé une blessure. On a appris ce matin que son pronostic était engagé à 9h. Et puis finalement, tout ça est différent 2 heures plus tard. Simplement, la version qui est donnée, forcément, on l'écoute avec... on a appris à être parfois un peu méfiant des choses. Mais Jean-Baptiste, je vous propose d'abord peut-être d'écouter Cyril Hanouna sur CNews ce matin dans l'heure des pros. Écoutons-le parce qu'il le considère comme son petit frère.
Moi, j'ai craqué pour lui quand je l'ai vu dans The Voice. Ensuite, on s'est vu plein de fois. J'ai fait des spéciales avec lui. C'est vraiment, on s'appelle toujours. Voilà, je le considère dans le métier comme mon petit frère. Après, je le vois pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait plein d'émissions avec lui. Et quand j'ai appris ça ce matin, c'est vrai que là, on est tous avec les équipes, on est tous choqués parce que c'est vraiment un proche. C'est un type exceptionnel. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable qui est toujours souriant, toujours prêt à aider tout le monde, qui est tellement heureux de ce qui lui est arrivé, de ce succès incroyable et fulgurant qu'il a eu en quelques années. Lui, là, il est arrivé à The Voice, il avait 18 ans.
Jean-Baptiste Marty, est-ce que vous pouvez nous rappeler les informations que vous donniez à l'instant à Émilie Dès sur les conditions dans lesquelles cette blessure est arrivée? Et c'est important de dire que ce que nous venons d'entendre de Cyril, il n'était pas au courant, bien évidemment, des informations que vous avez données, parce que j'ai dû l'interroger à 9h35, et ces informations, nous ne les avions pas.
Eh bien, ce sont des faits qui se sont passés au petit matin, entre 5h, 5h30, donc dans sa caravane, selon les déclarations donc, de Kenji Girac. Selon ce qu'il a déclaré aux enquêteurs dans sa chambre d'hôpital, c'est qu'il manipulait une arme qu'il avait achetée dans une brocante la veille ou avant-hier. Et un coup de feu est parti en direction de son thorax, une balle qui l'aurait perforé. Et donc il a été dans un premier temps pris en charge par les pompiers, qui l'ont escorté jusqu'à Bordeaux, au CHU. Et là-bas, son pronostic vital finalement, qui était engagé au début, ne l'était plus par la suite, à partir de 9h à peu près.
Et on n'a pas d'autres informations. Vous dites les déclarations, c'est quand même, il a pu... il a parlé à qui? Il a parlé aux policiers? Il a parlé à
son
entourage?
Alors très précisément à la section de recherche de Pau et à la brigade criminelle des Landes qui sont tous les deux en charge de l'enquête.
Bon, je le répète, l'important c'est qu'il aille bien, qu'il puisse s'exprimer, et on espère évidemment que cette blessure aura peu ou pas de conséquences pour lui. Réécoutons Cyril Hanouna sur... l'homme Kenji Girac. Pardonnez-moi. L'homme qu'il est, Kenji Girac.
C'est quelqu'un que j'aime profondément. Moi, je connais même bien les gens de son entourage qu'on va essayer de contacter. Mais bon, voilà, on n'a pas eu même vent ces derniers jours de problèmes avec certaines personnes, rien du tout. Vraiment, Kenji, c'est quelqu'un qui est sans problème. Hein. C'est un amour de mec qui, voilà, il pense qu'à donner du bonheur aux gens, et à faire son métier. Il est tellement heureux de ce qui lui arrive que c'est vraiment un garçon qui, je sais qu'il s'était fait voler, s'était fait agresser et voler sa voiture il y a ça quelques mois. On s'en rappelle, on en avait parlé nous également dans notre émission, je me dis c'est vrai que là c'est beaucoup plus grave. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas on est tous très très tristes et on espère qu'il va s'en sortir, c'est le plus important.
Et on rappelle Géraldine qu'il avait gagné
en 2014,
donc il y a 10 ans, il avait 18 ans,
c'est, hein, ça,
c'est ça qui est une réussite tout à fait exceptionnelle. Écoutons, on va être peut-être avec Baptiste Payou. Il sera là tout à l'heure. Il est président de l'Union française des associations tziganes dans le Grand Sud. Et on va être avec José. Alors, José, bonjour d'abord.
Bonjour, je sais pas, vous
savez. Et merci d'être avec nous, José. Vous êtes de la communauté gitane. Vous nous appelez.
Oui, ça n'a strictement rien à voir avec les gens du voyage. Hein, d'accord.
Oui. Bien sûr.
Moi, j'ai téléphoné à des amis à moi qui sont. Parce que moi, j'ai des amis dans les gens du voyage, qui sont en Barès-la-Grave, du côté de Bordeaux. Ils parlent du. C'est une manipulation au niveau du Cali, vous voyez. Mais ils savent pas en vérité si c'est ça ou s'ils veulent protéger quelqu'un, parce que vous savez que dans la communauté des gens du voyage, on parle pas, on balance pas rien du tout, vous comprenez? Voilà.
Ah, José, alors, moi je voudrais pas qu'on entre là-dedans parce qu'on n'en sait rien en fait, et je voudrais pas qu'on entre dans les suppositions.
Attendez, c'est des suppositions.
Oui, mais moi je veux pas qu'on entre dans les suppositions parce que je suis le premier.
Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit.
Oui, mais j'entends bien. Mais moi, je veux pas que vous le répétiez. José, et vous savez combien j'aime vous avoir au téléphone, mais j'étais le premier à avoir critiqué un peu lorsque j'ai entendu avec le petit Émile toutes les suppositions pendant heures sur des chaînes ou sur une chaîne info, m'avait choqué. Je vais pas faire la même chose. Qu'on va pas dire j'ai entendu. Machin m'a dit, bidule. Mais je comprends bien.
Mettez-moi ma place. Moi, quand je vous parle.
Mettez-vous à la mienne.
De Marseille jusqu'à Narbonne, ils sont en train de m'écouter, vous comprenez?
Oui.
Je ne veux pas, après avoir l'écoute de téléphone, ils me disent, oh, José, qu'est-ce que tu as dit là? Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, mais je suis d'accord.
Mais oui, je ne veux pas mettre en garde avec le commentaire. Oui, mais oui.
Bon, José, comment ça va?
Pas de supposition, je ne sais
pas. Non, on ne parle pas de supposition. Parce qu'on parle définition, on n'en parle pas. Mais en revanche, ça me fait plaisir de vous avoir.
Moi aussi.
Bon, et comment ça va la vie?
Ça va. Hier, ils ont menti quand ils ont dit, pour la manifestation, là, pour Rahim, comment ça s'appelle?
Rahim Hassan? Il y avait une manifestation à Marseille.
Ça partait du Fort Saint-Jean jusqu'en bas. Ils vous disent 1000 personnes, mais ils prennent les gens pour des cons. Ils étaient au moins 5000, ils étaient.
Ah, ils étaient plus que ça?
Mais bien sûr. Du Fort Saint-Jean jusqu'au Vieux-Port. J'ai la famille là-bas, du côté de là où ça.
Donc il y avait plus de gens
mais bien sûr,
écouter Rima Hassan que les médias ne l'ont dit. C'est ce que vous dites.
Bien entendu, monsieur.
Et vous dites que la presse sous-estime l'importance.
Bien entendu, on minore, on sous-estime.
C'est intéressant. Alors, ce n'est que votre témoignage, bien sûr. Bon.
Oui, bien sûr.
On va marquer une première pause. Est-ce que vous êtes déjà allé à Morlaix, José? En Bretagne. Est-ce que vous êtes déjà monté dans le Nord?
Non plus.
Ah, c'est vrai? Vous avez jamais. Non, sérieusement, vous êtes jamais allé en Bretagne?
Non, je vous dis franchement, non.
Et pourquoi vous avez peur?
J'ai la famille, là, j'ai la famille.
Oui, vous avez peur d'avoir froid ou?
Non, j'ai la famille du coup. Hein, non, c'est pas une question de ça, mais j'y suis jamais allé. Hein.
Eh oui,
c'est Marseille, c'est Narbonne, Montpellier, Perpignan.
C'est quand
ça,
les grandes fêtes qui vont avoir lieu de la communauté gitane?
Je me rappelle plus, putain.
Ouais, c'est pas au mois d'août, non?
C'est
le 15 août.
On ira au Sainte-Marie-de-la-Mer, tout ça. Ouais,
Sainte-Marie-de-la-Mer, moi je suis allé là-bas une fois.
Ah oui?
Oui, j'étais allé.
Ouais, c'est magnifique.
C'est un beau témoignage.
C'est un beau témoignage. Faites attention parce que vous n'aurez pas de gâté, vous, si ça continue.
Oh mince alors!
Bon, et José, est-ce que vous nous écoutez tous les lundis?
Non, moi, avec l'histoire des bars et tout ça, je peux pas. Moi, je vous écoute 3 fois par semaine. Vous voyez.
D'accord, voilà. Mais est-ce que vous savez que le lundi, on chante C'est lundi? Est-ce que vous connaissez la chanson qu'on chante le lundi
de
Jessie Garonne? Vous la connaissez pas, cette chanson?
Je la connais pas, non.
Dans les... C'est lundi. Exactement.
Jean-Baptiste Marty vous regarde avec étonnement.
Oui, mais parce que Jean-Baptiste Marty, il est normal.
Oui.
Mais